Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts. C'est une vieille lune de la construction européenne, sauf que cette fois-ci, les astres semblent presque parfaitement alignés. Et si le moment était venu de mettre sur pied une défense commune? On se souvient dans les manuels d'histoire que c'est la CED, la Communauté Européenne de Défense, qui avait valu à la jeune Europe réunifiée sa première grande crise politique en 1954. Le refus du Parlement français de valider la création d'une armée continentale sous commandement américain avait donné un coup d'arrêt au projet fédéraliste. Ironie de l'histoire, c'est une nouvelle crise de la construction européenne qui pourrait redonner sa chance à la politique de sécurité et de défense. Fin juin, les Britanniques ont voté en faveur du Brexit. Leur opposition à une telle politique était constante. Une fois partie, l'horizon pourrait donc s'éclaircir. À moins que les réticences du Royaume-Uni n'aient servi de prétexte pendant des années pour ne pas avancer sur ce sujet. Après tout, les outils existent aujourd'hui pour mettre en place des coopérations militaires au sein de l'Union européenne, si ce n'est entre tous ses membres, du moins entre quelques-uns, mais des outils qui restent sous-utilisés et sous-financés. Alors y a-t-il, comme ce fut exprimé le mois dernier au sommet de Bratislava, une réelle volonté des États d'avancer sur ce projet? Une défense européenne est-elle enfin possible? Eh bien, c'est la question que nous allons poser aujourd'hui depuis donc le Palais des Beaux-Arts de la capitale belge en partenariat avec les Journées de Bruxelles organisées par l'Obs. Et c'est une question que nous allons aborder en compagnie de Mercedes Bresso. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne, membre du groupe socialiste et démocrate. Vous êtes élue du Parti démocrate italien. Vous vous intéressez aux questions institutionnelles européennes et notamment aux questions de défense. Pour discuter avec vous, Federico Santopinto, bonjour.
Bonjour.
Politologue, vous êtes chargé de recherche au GRIP. Le GRIP, c'est le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. C'est un think tank qui est basé à Bruxelles. En notre compagnie également, un journaliste, Jean-Sébastien Lefebvre.
Bonjour.
Vous êtes correspondant à Bruxelles de Contexte. C'est un média spécialisé dans le suivi des politiques européennes. C'est un média français, en l'occurrence. Alors, je voudrais d'abord qu'on examine les éléments de contexte qui font qu'on pourrait peut-être envisager une accélération dans la mise en place d'une politique européenne de la défense, à commencer par le Brexit. On sait, Mercedes Bresso, que les Britanniques étaient les plus opposés à une politique, en tout cas à une Europe de la défense. Est-ce que leur départ prochain éclaircit l'horizon et donne une véritable chance à cette politique européenne de défense d'avancer?
Oui, c'est sûr. D'ailleurs, à Bratislava, quand on a recommencé à parler de défense, les Britanniques ont continué à s'opposer parce qu'ils sont, comme vous savez, encore là. Donc, je crois que le départ britannique ouvre la possibilité concrète de bâtir une Europe de la défense, même si, évidemment, ça soustrait aussi une ressource importante. Mais, bon, on restera de toute façon dans l'OTAN et donc les Britanniques pourront donner leur contribution. Mais je crois que maintenant, ce qui est très évident, c'est qu'il y a une volonté claire, allemande, française et italienne, d'aller de l'avant. Il y a d'autres pays qui sont intéressés et donc je crois qu'on pourrait, par exemple, utiliser les instruments qui existent comme la coopération structurée, la coopération renforcée ou à la limite aussi la clause passerelle selon ce qu'on veut faire pour commencer. Donc pour commencer à bâtir une stratégie de long terme et définir les pas, parce qu'on ne va pas immédiatement mettre ensemble toutes les armées, on va définir une stratégie et surtout commencer à y travailler.
Donc vous nous dites oui, ça ouvre de nouvelles perspectives, mais on va peut-être perdre un peu en capacité. C'est vrai, Federico Santopinto, que quand même les Britanniques, c'est une des principales forces militaires en Europe. Est-ce qu'on y gagne davantage avec leur départ en matière justement de construction d'une Europe de la défense qu'on y perd, c'est-à-dire justement avec des capacités militaires? Mais peut-être que la coopération pourra se poursuivre même si les Britanniques sont en dehors de l'Union européenne.
Effectivement, je pense que à la fin on va y gagner, surtout parce que les Britanniques, en tout cas, ne participaient pas beaucoup à la politique européenne de défense. Ils étaient plutôt en retrait. Ils constituaient un facteur de blocage. Et rien ne leur empêche de coopérer avec les continentaux dans le cadre de possibles missions, mais sans forcément qu'ils doivent, ils ne doivent pas forcément siéger dans les mêmes institutions, dans les mêmes structures, où ils créent plutôt une situation d'inconfort pour tout le monde. Donc, en fin de compte, je pense que c'est une bonne chose tant pour les Européens continentaux que pour les Britanniques.
Jean-Sébastien Lefebvre, partagez cette analyse.
Alors, effectivement, les Britanniques ont toujours bloqué, mais après, comme vous le disiez dans votre introduction, la question, c'est est-ce que d'autres vont pas le faire à leur tour? Donc, c'est un petit peu, on va dire, pour l'instant, facile d'imaginer la suite, mais attendons de voir quand on va rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'on fait précisément, ce qui va éventuellement risquer de bloquer.
Ça peut vouloir dire quoi? Que l'opposition des Britanniques permettait à d'autres membres de l'Union européenne de ne pas avoir à se prononcer de manière aussi forte sur le sujet?
C'est toujours comme ça que ça fonctionne dans les questions européennes. Il y en a un qui va crier pour tous les autres, et les autres vont se cacher derrière en soutenant par lors des votes, etc. Donc c'est pratique d'avoir toujours un grand pour le faire plutôt qu'un petit.
Est-ce que c'était un bon prétexte finalement pour ne pas avancer cette opposition des Britanniques, Mercedes Bresso?
Peut-être pour quelqu'un, mais je pense que par exemple pour la France, c'est aussi une possibilité d'être le leader de cette défense européenne, chose que l'aurait pas pu être avec les Britanniques. Donc si la France, ça aurait pu être la France cachée derrière les Britanniques. Mais je crois que ça a libéré une volonté française qui me paraît évidente. On sait que les pays de l'Est sont intéressés à, de toute façon, un renforcement de la capacité de défense européenne. Il y a aussi la question Trump aux États-Unis, mais non seulement Trump, Obama aussi a dit aux Européens, vous devez vous prendre plus en charge du point de vue de la défense. Donc je crois qu'il y a les conditions internationales malheureusement favorable, parce que c'est pas que l'état de tension, le problème de sécurité, le problème de guerre continue au Moyen-Orient et en Afrique, c'est un contexte favorable pour une Europe de la défense, pas politiquement favorable.
Il y a en effet cet autre élément de contexte qui est important, ouais. qui est la campagne présidentielle américaine, et plus largement d'ailleurs la stratégie de diplomatie américaine qui a été initiée par Barack Obama avec son fameux pivot vers l'Asie, qui consiste aussi à un désengagement vis-à-vis de l'Europe, désengagement qui pourrait être assez fort si Donald Trump devait accéder à la Maison-Blanche, puisque lui, il a annoncé, alors tiendrait-il cette promesse, on ne sait pas, mais carrément que les États-Unis pourraient se désengager de l'OTAN. En tout cas, est-ce qu'on peut dire, Jean-Sébastien Lefebvre, que c'est un autre élément de contexte favorable à une réflexion un peu plus avancée sur cette Europe de la défense?
Ah, complètement, et surtout venant des pays de l'Est, parce que les pays de l'Est, pendant très longtemps, se sont dit, notre défense, c'est l'OTAN. Ouais. On voit la Pologne, les pays baltes, etc. Ils ont toujours pensé de cette façon. Il y a eu une première inclinaison en se disant, ah, l'Europe de la défense, ça peut être pas mal quand même, quand il y a eu la guerre en Géorgie en 2008. Et qu'ils ont vu que les Américains n'ont pas du tout bougé pour défendre la Géorgie quand elle s'est fait écraser par la Russie de Vladimir Poutine. Bon, la Géorgie n'est pas dans l'OTAN, donc il n'y avait pas de clause de solidarité ni rien. Mais quand même, ils se sont dit, bon. Et là, effectivement, avec les tensions avec la Russie, plus le départ des Britanniques, ils se disent, est-ce que finalement, on va pas avoir besoin? Et on voit un Viktor Orban, qui est quand même pas le plus grand fédéraliste, donc le premier ministre hongrois, qui est pas un fédéraliste européen, quelqu'un qui veut une Europe unifiée ou autre, qui dit, nous voulons une armée européenne. Bon, ça, c'est une chimère, dire on veut une armée européenne, ça se fait pas comme ça. Mais on voit clairement qu'il y a une inquiétude à l'Est et qu'ils ont besoin de sécurité.
Donc, ce que vous nous dites, Jean-Sébastien Lefebvre, c'est qu'il y avait, les Britanniques qui servaient un peu de prétexte pour ne pas avancer, et puis l'OTAN qui, peut-être d'une certaine manière, anesthésiait un petit peu les velléités d'avancer, parce qu'on se repliait derrière. Il y a une politologue, Nicole Niesoto, qui fait partie du think tank Notre Europe, qui dit « L'OTAN a joué un rôle dans la déresponsabilisation stratégique des Européens ». Est-ce que c'est un point de vue que vous partageriez, Federico Santopinto ?
Je partage ce point de vue, et surtout les Américains partagent ce point de vue, parce que c'est la principale reproche qu'ils font aux Européens. Ils considèrent que les Européens se protègent sous le parapluie de l'OTAN et un peu ignorer les questions de défense. Et c'est pour cela que même avant Barack Obama, les autorités américaines ont demandé à l'Europe de prendre plus de responsabilités, au moins dans leur voisinage. Et on l'a pu le voir lors du conflit de 2011 en Libye. Les Américains, certes, étaient de la partie, mais ils se sont mis en retrait parce qu'ils voulaient voir un peu comment les Européens étaient en mesure de s'en sortir.
Ça, c'est un vrai paradoxe, d'ailleurs, Federico Santopinto. Oui. C'est d'ailleurs, finalement, aujourd'hui, les plus ardents défenseurs d'une défense européenne, ce seraient presque les Américains davantage que les Européens, on pourrait le dire comme ça.
Peut-être pas des ardents défenseurs d'une défense. Ils sont défenseurs d'une défense européenne, peut-être pas d'une défense de l'Union européenne. Ce qu'ils veulent, les Américains, c'est qu'on soit plus capable d'agir dans notre environnement et dans notre voisinage. que ce soit à travers l'Union européenne, les États membres, ils veulent qu'on soit en mesure d'assumer notre part de fardeau. Est-ce qu'ils veulent pour autant que l'Europe s'intègre politiquement et puisse devenir une puissance militaire à très long terme? Ça, c'est encore à voir. Mais en tout cas, ils sont demandeurs pour plus d'Europe et plus d'action, surtout dans leur voisinage. Ouais.
Merci, Mercedes Bresso.
Oui, c'est très évident. Hein. Après la notification, qu'on ait connu les efforts de créer une Europe de la défense, l'OTAN a déclaré que c'était très bon. Évidemment, elle a déclaré aussi que c'était une manière d'avoir une Europe plus forte à l'intérieur de l'Alliance. Mais ça c'est clair, je ne pense pas que pour le moment personne veuille mettre en discussion l'Alliance dans l'OTAN. Mais je crois que le moment politique pour l'Europe est venu, et celui-là, et donc qu'il faut le cueillir. Et je pense que, comme c'est maintenant les trois grands pays qui sont d'accord sur démarrer, maintenant il faudra trouver un accord sur la stratégie.
Quand on dit les trois grands pays, il faut comprendre France, Allemagne, Italie.
France, Allemagne, Italie.
Je rappelle que Mme Bresso est une députée européenne italienne.
Italienne, oui. Oui, l'Italie a présenté un document qui s'appelle pour la vision italienne pour une défense européenne plus forte, qui prévoit exactement trois actions, mais qui va absolument dans la même direction de ce qui a été préparé par la Commission européenne et par la Mogherini, d'ailleurs, qui est le responsable, qui est d'origine italienne, comme vous savez.
Et je précise parce que vous savez que, voilà, en France, on a tendance à penser que seules les initiatives franco-allemandes sont des initiatives qui comptent, voilà, et que celles qui viennent de l'extérieur sont peut-être moins importantes. Vous évoquiez donc.
L'Italie représente quand même le troisième pays comme investissement militaire et la capacité d'action italienne qui était vraiment très faible a beaucoup augmenté récemment parce que l'Italie était présente dans toutes les actions de paix, dans tous les contextes de tensions internationales, de guerre internationale, à partir évidemment de l'intervention de l'ancienne Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, etc., et puis en Afghanistan, etc.
Donc, il n'y a pas que l'armée française quand on parle de défense européenne.
On est d'accord que de toute façon, le partenaire le plus fort sera la France dans cette alliance. Ça va bien aussi comme ça.
Vous disiez en tout cas, voilà, on est dans un moment politique qui est plutôt favorable. Donc on a parlé du Brexit, on a parlé de la nouvelle stratégie américaine, de désengagement vis-à-vis de l'Europe. On a parlé des questions sécuritaires que fait peser la Russie, par exemple, et puis les questions de terrorisme. Et puis il y a aussi une question plus de politique, presque politicienne aujourd'hui, Jean-Sébastien Lefebvre, qui est la montée des populismes, des nationalismes dans un certain nombre de pays européens. Est-ce que justement la défense européenne, ça peut être un élément pour redonner de l'élan, si ce n'est un projet fédéraliste, en tout cas pour redonner de l'élan à l'idée européenne? Est-ce que c'est quelque chose qui est, disons, populaire en Europe et qui pourrait permettre de contrer ces vagues nationalistes?
Alors, populaire, là, j'ai pas de chiffres ou d'études à citer, mais en tout cas, ça fait partie de la rhétorique que les chefs d'État et de gouvernement veulent mettre en place et développer, de dire on fait l'Europe qui protège. Ça peut être aussi bien au point de vue commercial, ça peut être aussi bien au point de vue de la sécurité intérieure, des frontières intérieures, mais aussi, justement, par rapport aux menaces extérieures. Donc, en quelque sorte, oui, c'est pour aussi répondre aux angoisses qu'il peut avoir dans la population et qui pousse des gens vers les partis populistes. Après, est-ce que c'est l'Europe de la défense qui va faire aimer l'Europe aux citoyens au quotidien? Là, j'ai quand même quelques doutes. C'est pas un projet, on va dire, qui va impacter la vie de tout le monde.
Federico Santopinto.
Moi, je pense qu'en réalité, et c'est là la grosse différence entre l'Europe continentale et le Royaume-Uni, les citoyens d'Europe continentale, notamment les Français, ne sont pas si hostiles à l'Union européenne ou à l'intégration, au projet d'intégration européenne de ce qu'on croit. Je pense qu'ils sont fâchés avec la classe politique, ils perçoivent l'Union européenne comme au centre d'une classe politique qu'ils contestent, mais ils ne sont pas forcément hostiles au projet d'intégration européenne en tant que tel. Et c'est pour ça que vous pouvez constater que de plus en plus de Français peuvent voter pour des partis europhobes, mais après, si on fait des sondages en France, on découvre qu'ils sont favorables à une armée européenne. C'est quand même curieux. En réalité, ils sont fâchés contre le système politique. ils peuvent percevoir l'Union européenne comme un acteur qui mène des politiques qu'ils n'apprécient pas, mais ils ne sont pas hostiles à l'idée de fond d'intégration européenne. Les Britanniques, eux, par contre, étaient hostiles à l'idée de fond d'intégration européenne. Et c'est pour ça que leur départ va sans doute clarifier certaines choses. On pourra continuer à coopérer avec eux, mais c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça.
Pas d'hostilité à l'égard d'une armée européenne, ça ne signifie pas pour autant que la perspective d'une armée européenne est quelque chose d'envisageable à moyen terme. C'est du très très long terme, a priori, Federico Santo Pinto.
Tout à fait, c'est du très très long terme. Par armée européenne, on entendrait une armée qui serait, on va dire, embauchée par l'Union européenne, où les capacités militaires, les équipements seraient acquéris par l'Union européenne, les soldats seraient embauchés par l'Union européenne. Non, ce n'est pas absolument ça. Il s'agit de forces multinationales pour l'instant. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans plusieurs pays continentaux qui peuvent paraître eurosceptiques en ce moment, en réalité, l'idée que l'Union européenne soit en mesure de faire plus en matière de défense et s'intégrer plus, à mon avis, est une idée qui demeure forte et appréciée, chose qui n'est pas, on ne peut pas dire la même chose pour le Royaume-Uni.
Jean-Sébastien Lefebvre et Mercedes Bressot, vous êtes d'accord avec cette idée que, voilà, imaginer davantage d'intégration en Europe à travers la constitution d'une armée européenne, c'est un horizon qui est très lointain?
Ah, absolument. Moi, c'est très lointain. Et là, on sait même pas de ce qu'on est en train de parler en ce moment au niveau européen. Ouais. On parle de coopération, de recherche, de développement. Ouais. On parle pas du tout d'une armée européenne.
Mais est-ce que pour autant, c'est un objectif? C'est-à-dire, sans se dire que c'est quelque chose qui, à moyen terme, peut être atteint, est-ce que c'est un objectif qui détermine justement les différentes solutions intermédiaires qui pourraient être trouvées, Mercedes Bressot?
Oui, bien sûr, mais je crois que l'objectif est à long terme, mais il existe, mais la proposition italienne, par exemple, c'est une force multinationale, donc une force européenne multinationale, ce qui veut dire un commandement unique à l'intérieur, évidemment, de l'OTAN, mais avec une composition qui, d'ailleurs, tiendra compte des capacités des différentes armées, des différents pays. Mais surtout, je crois que le premier pas à faire, c'est renforcer notre capacité de recherche et donc la capacité d'avoir une autonomie européenne dans le domaine des armements de pointe. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a déjà commencé et qu'on peut renforcer. Donc il y a, disons, les aspects d'organisation, les aspects de stratégie, la stratégie à long terme, l'organisation qu'il faut se donner et le domaine de la recherche et de l'industrie. Ça permet aussi de relancer le secteur industriel européen, la réindustrialisation de l'Europe étant des objectifs européens. Et donc ça, c'est un renforcement industriel dans des domaines de pointe qui est très important et très intéressant. L'Eurobaromètre donne toujours la défense et la sécurité commune, politique de défense et de sécurité commune, comme un des sujets qui a le maximum d'adhésion des citoyens. Ça dépasse le 70% toujours, presque dans tous les pays. Donc je crois que c'est pas quelque chose qui va changer l'image de l'Union européenne, mais la capacité de prendre une décision, de commencer à la mettre en place par étapes, évidemment, c'est quand même positif parce que les Européens s'attendent à que l'Union européenne performe un peu plus, donne des résultats.
Ou alors peut-être que c'est d'autant plus populaire que les Européens font le constat que cette défense européenne est encore loin de voir le jour, donc finalement ça ne coûte rien d'être partisan d'une intégration
plus
poussée.
Ça peut même faire épargner, voilà. C'est vrai, d'ailleurs, ça peut faire épargner.
Sur la coopération en matière de recherche et en matière industrielle sur l'armement, Mercedes Bressot nous disait, voilà, il y a déjà des choses qui se font. Ce sont quand même des coopérations qui restent encore embryonnaires aujourd'hui, Federico Santo Pinto.
Elles sont encore embryonnaires, mais elles pourraient devenir plus importantes. L'Union européenne va adopter ce qu'on appelle une action préparatoire pour financer la recherche de défense, donc les industries militaires qui mènent des activités de recherche et de technologie. Pour l'instant, c'est des sommes très basses. C'est une action préparatoire, c'est-à-dire une expérimentation, on va dire. Mais les sommes pourraient devenir plus importantes à partir de 2021. Le problème est de savoir d'où viendra l'argent. Là se pose aussi un problème parce que c'est une très bonne chose de financer la recherche militaire parce que l'Union européenne doit acquérir à travers cette recherche militaire une autonomie stratégique, ça c'est vrai. Mais il ne faudrait pas que les budgets conséquents qui pourraient être débloqués à partir de 2021 soient repris d'autres programmes actuellement en cours au sein de l'Union européenne. Donc il faudra encore éclaircir d'où vient l'argent. Mais effectivement, constituer une industrie militaire importante et technologiquement à la pointe est essentielle pour être autonome, notamment des États-Unis, c'est-à-dire de pouvoir intervenir lorsque les États-Unis n'en ont pas envie ou ne sont pas intéressés.
Ça demande d'avoir des capacités budgétaires sans doute plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui, Jean-Sébastien Lefebvre.
Ah oui, aujourd'hui, dans le budget européen, de toute façon, actuellement, il n'y a pas de ligne budgétaire pour la défense. L'action préparatoire, effectivement, qui est attendue pour le mois de novembre, sera une première étape et on parle de 90 millions d'euros sur 3 ans. Si on veut avoir une politique digne de ce nom, il faudrait passer à des chiffres en milliards et que ça s'étale, qu'il y ait une certaine prévisibilité parce que les industriels, ils veulent savoir combien ils pourraient avoir en coopération de façon, une stabilité pour dire je suis prêt à engager des financements. Mais après, il y a plein de questions qui vont se poser une fois qu'on va se dire « Ok, on fait ça ». Par exemple, il y a de la recherche qui est faite en commun. Qui récupère les bénéfices de la recherche? Parce que souvent, les États sont veulent garder leur secret industriel, militaire pour eux.
Donc, voilà, il y a une forte compétition.
Voilà, et donc du coup, il va falloir apprendre peut-être aussi à partager. Ça va être un changement de mentalité nécessaire. Le Rafale français a été fait parce que on n'avait pas envie de participer à l'Eurofighter, parce qu'on voulait pas donner certaines choses qu'on savait. Et on se disait « On va plutôt faire notre avion de notre côté. » Donc il y a aussi la nécessité d'apprendre à se faire confiance et d'avoir une révolution de mentalité.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Une défense européenne est-elle enfin possible? C'est la question que nous posons aujourd'hui depuis le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Question posée à Federico Santopinto du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, à Jean-Sébastien Lefebvre qui est le correspondant à Bruxelles du journal Le Contexte et à Mercedes Bresso, députée européenne élue du Parti démocrate italien. Ce que vient de dire à l'instant Jean-Sébastien Lefebvre, cette capacité des États à partager la recherche, les fruits de la recherche, ce que ça veut dire qu'il faut une petite révolution politique en matière de défense pour que ce domaine qui appartient à la souveraineté nationale puisse être mutualisé aujourd'hui.
Oui, mais bien sûr, la révolution politique, on doit la faire dans beaucoup de domaines. On attend toujours, je ne veux pas dire une Europe fédérale, mais une Europe plus politique. Mais on a l'exemple de la coopération dans le domaine de l'espace qui commence à marcher. Et c'est de nouveau de la recherche de pointe, donc des choses dans lesquelles il y a aussi des jalousies possibles. Mais toute la question d'une plus forte coopération intra-européenne est importante parce que, par exemple, l'Italie participe à l'Eurofighter. Donc, elle ne fait pas les Rafales, elle ne travaille pas sur les Rafales, elle travaille avec les Américains. Ça, c'est ça qu'il faut commencer à essayer d'arrêter, avoir une plus forte coordination européenne pour éviter que chacun fasse des choix qui ne vont pas dans la direction d'un travail en commun.
Puis ça passerait par un budget européen de la défense, par exemple, Mercedes Bresso?
Je pense qu'on devrait avoir un budget européen pour la défense, mais je commencerai par justement la réindustrialisation et la recherche. Et après, on pourrait avoir un budget pour les éléments de coordination. Donc, si on a un commandement unique, on doit l'avoir. Alors, le budget peut venir d'une partie des budgets nationaux pour la défense ou peut venir d'un budget européen qui devrait être augmenté. Maintenant, il y a tout un travail qu'on fait au Parlement européen pour définir les règles pour avoir un budget européen, en particulier de la zone euro, qui pourrait venir, par exemple, d'impôts qui ne peuvent pas être perçus au niveau national, parce que toute la question des multinationales, du dumping social de certains pays, enfin, il y a toute une série de possibilités et qui pourraient donner des impôts européens qui ne soustrairait rien aux États parce que les États ne sont plus en mesure de se défendre dans ce domaine-là. Et ça aurait aussi un effet de défense de notre structure économique.
On voit bien que la politique européenne de défense, elle ne peut pas se penser isolément de la façon dont on aborde la construction politique de l'Europe et de sa diplomatie et de son économie et des questions budgétaires, Federico Santopinto.
En effet, là, le problème, parce que dans le domaine de la défense est un domaine régalien. Et pour avoir une politique de défense commune, il faut avoir une même vision politique ou au moins une même vision de ce que l'Union européenne doit être en termes d'intégration. chose qu'on n'avait pas, ou souvent on n'a pas eu dans le passé. C'est très important que les États membres s'accordent non seulement sur ce qu'ils veulent faire en matière de défense et de politique étrangère, et ça ils essayent de le faire à travers l'adoption d'une stratégie et de sous-stratégies qui sont en train d'être discutées maintenant, mais il faut aussi bien comprendre ce que chaque État membre s'attend du processus d'intégration européenne, jusqu'à quel niveau il veut s'intégrer, comment il perçoit l'essence même profonde du processus d'intégration européenne. Parce qu'il y a des malentendus par rapport à comment on perçoit l'intégration européenne qui ont des répercussions sur la façon dont on perçoit ensuite l'Europe de la défense. Et ces malentendus doivent être résolus à la base.
Alors ouais. on parle de cette Europe de la défense comme s'il n'existait pas grand-chose aujourd'hui, même s'il y a quelques coopérations, mais qui sont encore, on le disait, à un niveau assez peu élevé. Il y a pourtant, depuis quelques années, c'est prévu, c'est écrit noir sur blanc dans les traités européens, une politique de sécurité et de défense commune, Federico Santopinto. Ça veut dire que cette politique de sécurité et de défense commune, c'est avant tout de l'affichage, mais que à l'intérieur, il ne se passe pas grand-chose. Quels sont les éléments un petit peu concrets qui permettent de dire que voilà, une défense européenne ou une Europe de la défense, en tout cas, ne part pas de zéro.
Il y a un embryon déjà, effectivement, comme vous le dites. Seulement, cet embryon, au cours des dernières années, ne s'est pas développé. C'est resté un embryon. L'Union européenne mène des missions, de gestion civile et militaire des crises. Elle en a mené plusieurs, une trentaine environ jusqu'à présent. C'est souvent des petites missions qui ne sont pas décisives stratégiquement, mais qui peuvent aider.
Par exemple, il y a eu quoi comme mission?
Il y a actuellement une mission en République centrafricaine. Il y a eu plusieurs missions au Congo. Il y a une mission au Mali, après que les Français sont intervenus au Mali pour stopper l'avancée des djihadistes vers Bamako. Les Européens sont intervenus dans un deuxième temps avec une mission de formation de l'armée et de la police locale. Il y a deux missions navales qui sont assez importantes, une au large des côtes somaliennes et une au large des côtes libyennes. La première pour la lutte contre la piraterie, la deuxième pour la lutte contre l'immigration clandestine et les passeurs. Ce sont pas des missions très grandes, elles ne sont pas décisives stratégiquement, elles ne déterminent pas le cours d'un conflit, mais elles peuvent quand même contribuer à une certaine stabilité, à afficher une présence de l'Union européenne. Donc elles ont une certaine importance, même si elle n'est pas encore suffisamment grande.
Jean-Sébastien Lelièvre.
Justement, aujourd'hui, dans la réflexion qui est en cours, il y a l'idée de réformer ce qu'on appelle les battle groups. Les battle groups, en fait, c'est justement un peu une force multinationale, mais qui change tous les 6 mois ou 1 an, parce que c'est des unités composées d'unités de différents pays. Et donc, tous les 6 mois, on change de pays, donc du coup, on doit rassembler. Les Français, les Allemands et les Italiens se disent, est-ce qu'on pourrait pas finalement faire des battle groups plus stables, avec des unités plus ou moins fixes, sur une plus longue durée, ce qui fait qu'on pourrait vraiment les utiliser, parce que ces battle groups, ça fait une dizaine d'années que ça existe, on ne les a jamais utilisés, parce qu'en fait, finalement, personne ne sait comment les utiliser. Si on le réforme et qu'on les rend plus efficaces, peut-être que si demain, je sais pas, il y a une nouvelle intervention en Libye ou ailleurs, pourquoi pas l'idée de les utiliser pour de vrai. Après, se pose la question, qui décide de les utiliser? Ça, c'est une question de légitimité. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer Jean-Claude Juncker tout seul dans son bureau, comme le fait François Hollande pour intervenir en Mali, de se dire, je vais envoyer les battle groups. Là, ça restera discuté au niveau des États membres.
Bien sûr, ce sera de toute façon au niveau du Conseil européen ou du Conseil des ministres de la Défense. Ça c'est clair. Mais n'oublions pas qu'il y a maintenant une décision qui est prise et qui est en train de se mettre en place, c'est d'avoir une garde de côtes et de frontières communes. Ça, c'est une ébauche, parce que protéger ses frontières demande aussi avoir après une possibilité d'intervention au cas où ses frontières demanderaient une vraie défense et pas seulement un contrôle par rapport aux migrants. Et donc, je pense que là, on va acquérir une expérience et commencer à apprendre à travailler ensemble, parce que c'est vrai, il y a un problème politique, c'est que on doit savoir que on va vers un processus irréversible politique si on s'engage dans la défense commune des frontières, quand on s'est engagé.
L'irréversibilité, on a vu ce que ça donnait avec le Brexit.
Mais la Grande-Bretagne peut sortir parce qu'en réalité elle avait toujours un pied en dehors de l'Europe, elle n'a pas adhéré à l'euro. Je crois que personne imagine suffisamment dramatique comme elle serait vraiment une sortie d'un pays de la zone euro de l'Europe, parce que le processus d'intégration est devenu très fort, on ne s'en rend pas compte parce que parfois on le nie, hein, et on ne le raconte pas. je pense qu'il faudrait le raconter mieux. Le processus d'intégration est déjà très avancé, mais je crois que si on met ensemble quelque chose de très étatique, comme la défense, on doit avoir une réflexion de base sur le fait que ce processus est irréversible. Je crois d'ailleurs que pour le bien de l'Europe, il doit être irréversible. Les guerres ne sont pas sorties de la tête des gens. L'ancienne Yougoslavie, quand elle s'est défaite dans le drame et dans le sang. Ça a été terrifiant. Hein? Et pourtant, c'était un pays qui était ensemble depuis longtemps et qui avait paraissait calme et tranquille. Il n'y avait pas de signaux de la tension réelle qui est donc sous-jacente. Donc, je crois que effectivement, on doit accepter le principe que c'est une communauté de destin. On l'a dit, hein, c'est écrit dans nos traités. On est une communauté de destin vraiment, et la défense commune étant des éléments qui vont donner ce sentiment d'appartenance aussi aux Européennes. Je crois que c'est pas ce qui va changer l'attitude à l'égard de l'Union. L'attitude change, c'est les leaders de l'Union européenne acceptent de dire la vérité aux citoyens, hein, que c'est fondamental pour nous, que c'est indispensable pour notre futur, pour notre défense, pour notre économie future, qu'on n'a pas d'autre solution. Ça, c'est la meilleure. Heureusement qu'on l'a assumé dans les années 50, c'était beaucoup plus difficile, on ne s'aimait pas. Dans les années 50, quand on a fait le marché commun, vous pensez qu'il y avait un grand amour entre Français, Italiens, Allemands ?
Et ça peut être d'ailleurs duré bien au-delà des années 50. Je voudrais justement, à ce propos, vous faire écouter un son d'archives. On est en 1994, donc il y a un petit peu plus de 20 ans. Le 14 juillet, défilé sur les Champs-Élysées des armées, notamment de l'Eurocorps. L'Eurocorps, c'est une mini-armée, enfin je ne sais pas comment vous la qualifieriez, mais qui est constituée par des soldats allemands, français, italiens, belges, espagnols et polonais pour l'essentiel. Et le 14 juillet 1994 est prévu donc que l'Eurocorps défile sur les Champs-Élysées à Paris. Ça crée une polémique en France où certains se disent: comment peut-on accepter que des soldats allemands foulent à nouveau le sol parisien ?
Pour rester loin des bruits de bottes allemandes sur les pavés parisiens, l'Eurocorps sera entièrement motorisé le 14 juillet. Alors ce matin, on a astiqué, bricolé, vérifié la mécanique des 150 véhicules qui vont défiler sur les Champs-Élysées. Et lorsqu'on a 18 ans, lorsqu'on est un jeune appelé du contingent allemand, on réfléchit sur la polémique qui a agité la France il y a un mois.
Je défilerai en tant que soldat du corps européen, en tant qu'européen et non pas en tant qu'allemand. Et les soldats allemands qui ont défilé en 40, bon, aujourd'hui ils ont au minimum 70 ans. Et bon, nous on a 20 ans de moyenne. Et puis on défile pas en tant que soldat allemand, mais vraiment en tant qu'européen. Il y aura les Français, les Belges, les Espagnols, les Allemands aussi. Il faut regarder vers le futur, il ne faut plus regarder vers le passé. C'est passé, on n'y peut rien, on ne peut plus changer. Non, il faut essayer que ça ne se reproduise plus.
Voilà, c'était donc en 1994, et si ma mémoire est bonne, à cette occasion, Valéry Giscard d'Estaing avait aussi fait part de son émotion et de son hostilité par rapport au fait donc que des soldats allemands puissent défiler à Paris. Ça vous faisait beaucoup rire, Mercedes Bresso. Vous pensez que cet obstacle-là, qui est un vrai obstacle, c'est-à-dire le poids aussi de l'histoire, aujourd'hui, on est passé à tout à fait autre chose?
On n'est jamais passé à tout à fait autre chose, mais le poids de l'histoire ne peut pas nous empêcher d'aller de l'avant, parce que sinon, si on recommence avec l'histoire, on arrive même aux guerres entre communes. Hein. Moi, je viens d'un pays qui est uni depuis 150 ans. Juste avant, on se faisait la guerre partout, et c'est la même chose en Allemagne, un peu moins en France, mais dans la plupart des pays européens, il y a eu des guerres sanglantes à l'intérieur de nos mêmes pays. Ben, on a appris à vivre ensemble, on peut le faire au niveau européen et je pense qu'on doit le faire.
Dominique Moïsi, qui est un géopolitologue et qui écrit régulièrement dans le journal Les Échos, écrivait justement une tribune il y a quelques jours de cela à propos de ses perspectives de défense européenne en disant voilà, il faudrait permettre que des chars allemands soient fabriqués en France et des canons français en Allemagne. Les esprits sont mûrs, Federico Santopinto, aujourd'hui pour permettre ce type de coopération. On n'est plus en 1994 ?
Je pense que, je sais pas s'ils sont encore complètement mûrs, mais je pense qu'ils mûrissent. Je pense que c'est un peu anecdotique, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, la présence de soldats allemands en France créerait une polémique comme ce fut dans le passé. Effectivement, il faut regarder au futur. Ce jeune soldat allemand avait bien raison. Il faut regarder vers le futur et il ne faut pas rester limité à regarder le passé, parce que sinon on restera dans le passé, et l'objectif de l'Europe, c'est de sortir de ce passé.
Jean-Sébastien Lefebvre.
On peut noter par exemple que demain l'armée française sera équipée de fusils d'assaut allemands. Le fusil de l'armée française, le FAMAS, doit être remplacé, et l'entreprise qui a gagné l'appel d'offres, c'est une entreprise allemande. Effectivement, je pense pas qu'en 94 une telle chose aurait été acceptable vu le débat sur simplement le défilé, sauf qu'aujourd'hui, demain ça sera le cas, l'armée française sera équipée en partie de matériel allemand.
Dans le son qu'on entendait, il était donc question d'un défilé de l'Eurocorps. Federico Santopinto, d'ailleurs, peut-être on peut dire un mot de ce qu'est cette structure. Est-ce que on peut imaginer que ce soit un embryon à partir duquel on pourrait développer dans un avenir, on l'a compris, lointain, une armée européenne?
Oui, l'Eurocorps n'est pas une structure insérée au sein de l'Union européenne. C'est une initiative franco-allemande auxquelles se sont adjoints le Luxembourg, la Belgique, la Pologne comme observatrice et l'Espagne. Et c'est, au fond, c'est une espèce de quartier général européen en mesure de mobiliser un certain nombre d'hommes en cas de nécessité.
Ça peut être à la demande de l'ONU, de l'OTAN, de
l'Union européenne. Mais surtout, ce qui est intéressant de l'Eurocorps, c'est qu'il est basé à Strasbourg, déjà, symboliquement, c'est quelque chose d'important. Et en plus, il fonctionne un peu comme quartier général. Il pourrait être un quartier général permanent. Et c'est pour ça que dans les débats bruxellois, aujourd'hui, on réfléchit à l'idée de récupérer cet Eurocorps et de se baser de là pour construire un quartier général permanent européen, que les Anglais n'ont jamais voulu, et de là continuer à évoluer vers des forces multinationales de plus en plus intégrées.
Alors, Mercedes Bressot, c'est pratique. Finalement, le lieu du quartier général européen pour la défense, on l'a déjà, ça pourrait être Strasbourg.
Ça pourrait être Strasbourg. D'ailleurs, ça pourrait permettre d'alléger un peu et créer une possibilité d'éviter cette chose un peu étrange du Parlement européen qui se déplace tous les mois à Strasbourg, parce qu'on pourrait trouver peut-être une fonction différente pour Strasbourg. C'est tout à voir, mais je crois que c'est vrai qu'un quartier général, on le discute parce qu'il y a sur ça quelques tensions dans l'OTAN surtout, mais un quartier général, il faut l'imaginer, parce que il faut se donner une stratégie qui comprenne tout ce qui est nécessaire pour justement dépasser les problèmes qui pourrait exister de type psychologique.
Par exemple, le principal obstacle pour un quartier général.
Personne n'avait dit aux Français que non seulement ils défilent, mais ils sont placés, qu'il y a des soldats allemands à Strasbourg. Donc, ça devrait faire plaisir d'être le quartier général et pas certainement de dire je ne veux pas avoir des soldats dans notre pays sur mon territoire. Ce serait un lieu de formation, ce serait très, très important. C'est aussi un lieu symbolique de la réconciliation franco-allemande. Donc,
le principal obstacle, c'est quoi? C'est qui commande? Qui serait aux commandes de ce quartier général?
Mais non, parce que dans le domaine militaire, l'habitude au commandement unifié, on l'a, parce qu'on est, déjà dans une alliance militaire. Donc, il n'y a pas qu'un commandant. Et puis, de toute façon, la responsabilité devrait être politique et collective. Nous, on a une présidence collective de l'Union européenne, qui est le Conseil européen, et donc le commandement du corps d'armée européenne éventuel serait le commandement du président collectif qu'on a. Hein.
Jean-Sébastien Lefebvre.
Alors, le principal obstacle pour le moment, c'est le Royaume-Uni. Mais une fois qu'ils seront partis, effectivement, la question, ça va être la répartition des postes et aussi, c'est quoi les compétences de ce QG permanent? Parce qu'en fait, l'intérêt d'en avoir un permanent, c'est qu'aujourd'hui, si on veut monter une opération européenne, il faut reconstruire un QG à chaque fois. Donc, ça prend du temps. Et en plus, à chaque fois, on perd l'expérience qu'on acquiert avec le fait de travailler en commun. Il n'y a pas de, on va dire, de capacité à entretenir ce qu'on apprend. Et ce qu'on est en train de faire sur les affaires étrangères avec le service d'action extérieure, c'est la même chose. On a une structure permanente, ce qui permet aux diplomates d'apprendre à se connaître, à travailler ensemble et de créer une culture commune. Donc c'est ça l'intérêt principal du quartier général. Après, il va falloir du coup se dire que des soldats français pourraient être dirigés par un général, je sais pas, allemand, espagnol, italien, et que du coup les Français vont aussi devoir apprendre à partager. C'est pas uniquement nous aider à payer les opérations extérieures et à nous aider au Mali ou autre, c'est aussi partager les compétences.
Eh oui. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci Mercedes Bresso, Jean-Sébastien Lefebvre et Federico Santopinto. Émission, discussion que vous pouvez réécouter comme chaque jour sur notre site France Culture, à la page du Grain à Moudre. Émission que vous pouvez par ailleurs télécharger et vous avez un an pour le faire. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Cyril Baer, Isolte Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Nicolas Mathias et Gilles Manet, chargé de production Pascal Bresse. On se retrouve demain pour le Club des idées du Grain avec cette question: mais pour qui roule la presse? Tout de suite, c'est Ping Pong, Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Bonsoir.